L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Le 3 juin dernier, je vous ai fait découvrir et je vous ai emmené dans les coulisses du Salon des livres et des arts de Claret. On en a sorti 3 heures de son que vous avez eu le plaisir d'écouter cet été. Et là, on se retrouve en plein cœur de Montpellier, dans un endroit qui n'avait pas vu le salon depuis 3-4 ans. Je vous parle de Figueroles, où on retrouve de nombreux auteurs qui étaient présents à Claret, mais d'autres. Et pourquoi, en ce début d'automne ou en cette fin d'été, avoir décidé de recommencer cette expérience à Figueroles? Je suis en compagnie de Thierry Arquet et Thierry va nous expliquer pourquoi et comment s'est monté ce projet assez vite, visiblement.
Oui, bonjour. Donc, voilà, Figueroles, il faut savoir que c'est quand même mon quartier de naissance. Donc, ça fait de nombreuses années que j'y organisais des choses grand public. Hein. Ça a été tout d'abord à la Maison pour tous, Albertine Sarrazin, puis avec la Maison pour tous Joseph Ricom. Et cette année, donc, on a organisé plusieurs salons du livre. Je crois qu'il y en aura eu, il y en aura eu 7 en tout, entrecoupés évidemment de cette terrible période du Covid. Puis après un petit manque d'énergie lié au fait que tous les repères avaient changé quand même, et puis au fait qu'il y avait en plus de ça beaucoup de travaux et de modifications de la circulation sur le centre-ville et notamment sur le quartier Figueroles. Et puis ça nous avait un peu découragés. On s'est dit ça ne sera pas possible de faire venir les gens pour qu'ils se garent, etc. Bon. Donc on était un peu mou du genou, comme on dit. Et puis finalement, peut-être un peu lancé par les expériences à Claret, dont vous êtes très au courant puisque grâce à Nathalie et à FM+, donc on a finalement décidé un petit peu sur les chapeaux de roue de réorganiser ce salon qui avait son vécu, son expérience, etc. sur la place Salengro. Et voilà, vous êtes donc maintenant face directement à cette réalisation avec de nombreux auteurs et artistes qui exposent là. Et voilà, tout se passe parfaitement bien, surtout avec la météo, parce que jusqu'au dernier moment, on pensait qu'il allait carrément pleuvoir aujourd'hui. Et donc, on était relativement dépités. Et puis, miracle, le temps a changé. Je dois ça à un des 5000 dieux existants, paraît-il, puisque tout le monde a prié. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas lequel remercier, mais on vous laisse choisir. Et donc, voilà, tout s'est bien passé.
Combien d'auteurs et combien d'auteurs, parce que cette décision de faire Figueroles, vous allez nous le dire, Thierry, mais ça a été quand même assez rapide. Combien d'auteurs ont répondu présents aujourd'hui? Et en plus, alors là, c'est vraiment une expérience dingue, parce qu'en 3 mois, autant là, vous devez habiter un petit espace, alors que Claret, c'est justement la particularité de Claret, c'est de se perdre dans les jardins et d'avoir un très grand espace. Là, le travail est très différent sur l'un ou sur l'autre des salons.
Oui, celui de Claret est très éprouvant, parce que si le parc est magnifique, l'installation des auteurs et des artistes et des tables est problématique. C'est épuisant pour nos bénévoles qui doivent charrier ces tables, etc. Donc ça reste un problème qui nous inquiète, parce qu'on ne sait pas si on a les moyens physiques de continuer à réaliser ça. On va se réunir, on va en parler. Mais bon, il y a des solutions à trouver. D'ailleurs, si des gens qui écoutent l'émission sont inspirés par l'idée de nous rejoindre, on les accueillera à bras ouverts. Et donc ici, c'est très différent, puisque c'est une place qui est circonscrite, c'est tout plat. Donc on se fait livrer le matériel, tables et chaises. Et puis ça s'est fait très vite ce matin. Hein. Tous les auteurs qui sont là prêtent la main. On installe les tables et sur 3 rangées. Et voilà, c'est parti. Et les rencontres commencent. Donc c'est deux, comment dire, techniquement c'est très différent. Et donc voilà, donc c'est plus facile ici, on dira. Et puis voilà, bon là il y a un site avec plein de gens qui nous connaissent depuis longtemps, et puis tout un réseau de gens qui se connaissent entre eux, voilà, qui sont heureux de se retrouver. Donc c'est l'Amérique.
Merci beaucoup Thierry, je vais me permettre comme à Claret d'aller demander un petit mot à chaque auteur présent. Et puis à l'occasion on fera un petit son avec et on fera une autre série de documentaires sur Figrol. Voilà, merci beaucoup Thierry Arquet.
Merci FM+, à bientôt.
Madame Bétou avait promis Madame Bétou de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Je retrouve Marie Havard, que j'avais laissée début juin à Claret, dans les jardins de Claret. Et d'ailleurs, son voisin, je l'avais aussi laissé à Claret, Georges Piombeau. Bonjour, Georges. Et Marie, comment s'est passé ce bel été, donc un peu caniculaire? Il a été studieux, écrivain, relax?
Plutôt relax, mais j'ai quand même avancé aussi sur le futur roman qui sera la suite des Larmes du lac. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, je me suis plutôt mis à l'ombre.
Là, vous êtes sous les ombres des arbres, des platanes qui ont été taillés un peu cette année. Il n'y a pas beaucoup d'ombre quand même. D'ailleurs, vous venez juste de déménager. Vous étiez plein soleil, ras-le-bol, et plein poubelle, ras-le-bol aussi. Hein, voilà, les deux. Hein. Donc là, vous êtes à l'ombre et plus loin des poubelles. S'il y avait un livre dont vous aimeriez parler à nos auditeurs, ce serait lequel?
Alors peut-être Itinéraire inattendu. C'est un recueil de nouvelles, donc avec des textes qui peuvent être parfois assez longs, jusqu'à 50 pages, donc peut-être plus qu'une nouvelle finalement. Et chaque texte fait traverser un nouveau pays, et donc c'est un recueil qui fait beaucoup voyager. Et pour les gens qui ont voyagé par le passé, peuvent peut-être retrouver des souvenirs de voyage, ou ceux qui ne voyagent plus peuvent s'évader depuis le canapé.
Toujours des projets de salon, peut-être Castries qui va arriver. Vous savez un petit peu, vous avez une idée de ce que vous allez faire à l'automne?
Oui, alors là en septembre, le 17 il me semble, donc je suis à Saint-Geniès-des-Mourgues pour la promenade des artistes, ensuite à Saint-Dreziri pour la fin du mois de septembre, et en octobre je vais plutôt vers le Gard, à Aigremont et à Cuxac-d'Aude aussi, dans l'Aude pour le coup, pour le 8 octobre.
Aigremont qui est d'ailleurs je crois organisé plus ou moins par un collègue, par Frédéric Saumon, c'est ça?
C'est ça tout à fait, c'est le premier salon d'Aigremont et on espère qu'il aura un beau succès.
En tout cas, on s'y retrouvera parce que je crois que je vais faire les tables ouvertes d'auteurs à Aigremont.
Merci beaucoup.
À bientôt, Marie. Et puis, comme on se dit à chaque fois, depuis 2 ans qu'on se connaît, à très bientôt pour parler longuement du... Je suis en train de faire la programmation, Marie, ça ne serait tardé. Merci beaucoup. Je laisse au passage Georges Piombeau avec un lecteur. Je reviendrai vers lui. Et ma balade continue avec Jean-Claude Tranier. Jean-Claude Tranier. Bonjour, Jean-Claude Tranier. Donc, qui fabrique des chevalets sur mesure, mais qui a surtout un livre à côté qui s'appelle « Les enquêtes du commissaire recherche ». Vous nous en parlez un peu plus, Jean-Claude Tranier?
C'est un livre à caractère policier et basé un petit peu sur l'humour. Sur l'humour du nom des personnages. C'est-à-dire que le commissaire, déjà, vous le voyez sur le livre, il s'appelle « Recherche ». Il a deux inspecteurs qui s'appellent « Aide » et « Secret ». Et le maire s'appelle Civil, et c'est axé un peu sur l'actualité de maintenant, le problème des cités, le problème de manque de médicaments dans les pharmacies, la relation entre cité et cité, la relation entre jeunes et personnes âgées, voilà, et bien tout ça avec humour.
Et comment on peut se procurer vos ouvrages?
Il est sur Amazon, et puis il est dans toutes les librairies.
Merci beaucoup Jean-Claude Tranier. Donc je vous rappelle le titre, Les enquêtes du commissaire recherche par Jean-Claude Tranier. Et de 2 tomes, voilà. Et on continue avec une jolie jeune fille avec des jolis cheveux bleus. Delphine Palot, c'est ça? Voilà. Alors Delphine, là, c'est le premier table où il n'y a pas que du livre, puisque c'est un livre-jeu. Vous nous en dites un peu plus sur Alicia Malbos, qui est la quête des talismans. Bonjour Delphine Palot.
Bonjour, oui, tout à fait. Donc, c'est un livre-jeu. Donc, ici, le texte est divisé en paragraphes. Et à chaque paragraphe, le lecteur ou la lectrice incarne l'héroïne de l'histoire et fait les choix pour elle. Et avance comme ça dans l'univers, donc un univers médiéval fantastique. On essaye de protéger des créatures fantastiques. Donc, fable un peu écologique et féministe.
Alors, tout est fait sur une imprimante. Comment vous travaillez? Parce que le livre, lui, est imprimé. Alors, je regarde, hein, en auto-édition. Voilà. Qui est disponible aussi chez Amazon. Et mais toutes les feuilles, les cartes, c'est vous qui les imprimez?
Oui, bah, je travaille avec des imprimeurs et je les fais à la maison. Et après, je t'envoie et l'imprimeur me les imprime en quantité relativement grande pour avoir le stock.
Vous êtes sur Montpellier, Alicia ? Alicia, oui, alors Delphine, parce que Alicia, c'est votre héroïne. Si je vous appelle Alicia, ça ne va pas faire. Vous êtes sur Montpellier ?
Sur Gignac, donc à côté.
Bah, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, beau salon, en tout cas. Et je crois que vous serez à peu près couvert du soleil, vous, jusqu'au bout. Mais Delphine, elle a prévu le truc. Hein. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et je vais retourner vers Georges, voir s'il peut me parler. Georges Piombo, qui va vite venir nous voir. Je crois qu'il est prévu en octobre, Georges. Pour moi, le, hein, moi, François le Français, ben voilà, c'est pas, ça fait partie, comme votre voisine Marie, de... Comment ? De rendez-vous qu'on reporte, et puis qui, voilà. Donc là, oui, alors c'est moi François le Français qui vient d'avoir le prix des lecteurs. Alors attendez, je vous donne le micro.
Oui, bonjour. Alors moi, François le Français a été sélectionné pour le prix des lecteurs du Grand Pic Saint-Loup. C'est un nouveau prix littéraire qui vient de se faire. Il est en concurrence avec deux autres bouquins. Et c'est donc les bibliothèques participantes du Grand Pic Saint-Loup qui vont faire lire les trois livres aux leurs adhérents. Et ils vont faire un choix, et puis l'un des trois va gagner le prix des lecteurs du Grand Pic Saint-Loup. Voilà, c'est sympa, ça fait toujours plaisir d'être sélectionné pour un prix littéraire.
Surtout que les deux autres auteurs sont quand même des auteurs aussi très reconnus. Nicolas Nuten, que j'ai eu le plaisir de recevoir pour Comme deux gouttes de sang. Et puis Catherine Fradier, que j'avais vue aux Automnales de Sète, je crois. Vous nous en parlez un peu de François le Français ? Vous pouvez nous faire le pitch, Georges ?
Oui, avec plaisir. Bon, François le Français, c'est une histoire, comme je dis souvent, Leïla Slimani a écrit l'histoire de ses parents qui venaient du Maroc, Olivia Ruiz, celle de ses parents qui venaient d'Espagne. Et ben moi, je me suis permis d'écrire l'histoire de mes parents qui venaient d'Italie. Et voilà, ils se sont des émigrés italiens, le début de l'histoire. C'est assez curieux, ça s'appelle la carrousel, c'est-à-dire que mon grand-père a enlevé une novice dans un couvent alors qu'il allait réparer le toit du presbytère. Et donc ils ont fait connaissance, et comme elle ne voulait pas de la vie qui lui était destinée, elle a décidé qu'il valait mieux partir. Et donc ils sont partis, ils ont fui l'Italie, parce qu'à cette époque-là, si tu étais récupéré, tu partais aux galères. Ils sont arrivés en France, et les Italiens étaient tolérés, mais bon, mal considérés quand même. Et donc ils ont voulu absolument être français, d'où le titre « Moi, François le Français ». Ils ont eu un fils en 1912 qu'ils ont appelé François, qui est le narrateur du roman. Et ils ont été naturalisés en 1913. Et en bon français, ils sont partis à la guerre. Le père est parti à la guerre en 1914. Donc je raconte l'épopée de la guerre, de la première guerre. Il en est revenu. Et puis comme mon héros était pauvre, il s'est engagé dans l'armée. Donc je raconte l'épopée de la deuxième guerre, qui est aussi une épopée plus ou moins véridique, puisqu'elle rappelle, je me suis inspiré des mémoires de mon oncle, qui était militaire de carrière. Donc il y a pas mal de choses dans ce livre qui sont vraies. Puis après, il y a beaucoup de romans, évidemment. Puisqu'à un certain moment, le livre bascule, évidemment. À force de faire la guerre, on en a assez. On se demande d'abord, mon héros a peut-être pas fait les bons choix. C'est un livre aussi sur les choix. Hein. À un moment, il a fait l'armée d'armistice avec Pétain. Est-ce qu'il fallait continuer à suivre Pétain ? Il a eu un collègue, lui, qui est parti dans les forces libres. Et donc, je l'ai fait se rencontrer, je l'ai fait dialoguer ensemble. Et je fais en sorte de faire savoir quand c'est qu'on fait les bons choix. Quoi. C'est un livre sur les choix aussi. Voilà, et après ça bascule sur une histoire d'amour, évidemment, mais je vous en dirai pas plus.
Vous m'en direz plus, mon micro. Alors je sais pas si vous préférez venir après ou avant. On peut peut-être avant, ça fera de la pub, comme ça les gens vont voter. Hein, voilà.
Un livre de poèmes et de nouvelles aussi.
Vous nous en parlerez en même temps. Merci Georges Piombo.
Vous en prie.
Merci.
Que réclameur républicain, que réclameur républicain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain.
Et la balade continue, donc là je reviendrai voir Monsieur Cuche de La Glorieuse, et puis le voisin de ces deux jeunes femmes que je vais vous présenter, qui a écrit un très beau livre sur Paul Dardet. Donc j'ai le plaisir de retrouver Camille Roc et Johanna Mesté, ou Mesté, je ne sais pas, vous allez me dire Mesté, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la Comédie du Livre et qui ont écrit Les Intemporels, qui est sorti au Hello Édition. Comment allez-vous depuis le mois de mai, mesdames ?
Très bien, il fait beau, le soleil est là, donc on est contente. On retrouve le soleil de septembre après celui du mois de mai. Johanna, pardon, excusez-moi.
Oui, enchantée Camille.
Vous faites beaucoup de salons depuis la Comédie du Livre, par exemple, vous avez fait des choses cet été ou pause ?
Non, une pause et profiter de l'été pour se reposer et retrouver la rentrée en bonne forme. On essaye, en tout cas.
Comment vous avez connu le salon de Figerolles, qui est un peu alternatif, hein, qui est différent des autres salons, en tout cas moins traditionnel que la Comédie du Livre ?
Alors c'est une très bonne question, je pense qu'on a vu...
Je crois qu'on l'a vu sur Facebook, il me semble. Et après j'ai écrit à Thierry qui m'a confirmé que ça avait bien eu lieu cette année. Donc,
ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu ça.
Ah oui, et on a raté celui de Claret.
L'année prochaine, on est en train de se battre, parce que c'est vrai que Claret, c'est une grosse organisation, autant ici, voilà, c'est une table, les auteurs se mettent assez bien, autant Claret, c'est un lieu, enfin, je sais, parce que sur mon site Facebook, vous pouvez trouver, et sur le site de Thierry d'ailleurs, les 3 documentaires que j'ai faits sur Claret, en allant voir comme ça les auteurs, et le lieu est immense, c'est un grand jardin, on se perd dedans, c'est formidable. On vous espère dessus, alors, l'année prochaine, hein ? Merci, donc je rappelle votre titre, Les Intemporels, par Camille Roch et Jeanne Amesté. Peut-être l'une des deux peut me faire un pitch en deux mots du livre.
Alors c'est l'histoire d'Alban qui observe Jenna et puis qui se rend compte qu'elle a quelque chose de petit changé. Et donc il va prendre son courage en deux mains pour lui adresser la parole. Et ça va être le début des aventures, un petit peu un brin de fantastique dans tout ça. Et c'est une histoire qui a été écrite en fait avec Camille pendant le confinement. Et on a découvert l'histoire tout en l'écrivant en fait. On s'est envoyé un petit chapitre et puis l'une le répondait et ainsi de suite. Et donc ça a donné Les Intemporels. Voilà, bonne découverte et bonne lecture.
Bah super, et puis on avait conclu que vous viendriez en parler plus longuement au micro de FM+, qui est juste là-bas, à côté du dôme. Donc un matin, on se trouve un moment pour en parler, d'accord ? Merci Camille, merci Johanna, à bientôt. Bonjour Madame Sophie, comment ça va depuis le mois de juin ?
Très bien, merci.
Bonjour, je suis très heureuse d'être à ce salon du livre, que je connais bien, parce que je l'ai fait il y a 4 ans. Donc et cette année, on aura une petite nouveauté parce que je suis avec ma compagnie de théâtre et nous allons faire une animation théâtre vers 14h. Parce que je suis aussi auteur de théâtre. D'accord. Non seulement de fantastique, de récits historiques, enfin je fais tous les genres.
Et femme engagée auprès de la cause animale, femme engagée dans beaucoup de causes. Vous avez le verbe haut et la parole sincère en tout cas. Si vous deviez parler d'un livre, Corinne, sur tout ce que vous présentez aujourd'hui, duquel vous aimeriez parler et partager avec nos auditeurs?
Alors moi, je voudrais parler de l'aventure des abysses parce que c'est un tournant complet dans ma création. Désormais, je n'écrirai plus que de la fantaisie, c'est-à-dire la féerie, un petit peu déconstruire la réalité pour aller dans ces mondes à l'envers, créer des personnages. C'est un petit peu ce que je fais aussi au théâtre en créant des rôles sur mesure pour mes acteurs. Et je trouve qu'en mélangeant comme ça tous les genres, en faisant appel à l'imaginaire, et aussi à la sensibilité de mes lecteurs, et ben je fais passer ce message qui me tient à cœur, toujours la défense de la cause animale, comme on le retrouve avec mon héroïne, qui s'appelle Coraline, qui se retrouve au cœur des océans et qui va découvrir que ces créatures sont beaucoup plus humaines que les monstres, finalement, les vrais monstres sont sur Terre.
Donc c'est l'aventure des abysses, c'est un tome 1, donc Coraline et les créatures, et c'est comme vos voisines chez Hello Édition, la maison de Guillaume. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, au revoir.
On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas.
Que la commune n'est pas morte.
Et toujours à Figerolles, place Salingro, ce 3 septembre 2023. La promenade continue avec Sylvain Sixou. Sylvain, on ne s'était pas vu depuis la galerie Carrefour, je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis ces 6 mois?
Depuis ces 6 mois, je me suis attelé à finir mon 4e roman, qui va sortir le 23 septembre. Je me suis mis un point d'honneur à le diffuser le jour du salon du livre du village où j'habite, à Montbazin. Donc voilà, il est tout prêt, il est au chaud, et donc voilà, je me suis penché là-dessus.
Donc le salon du livre de Montbazin, c'est quand ?
Le 23 septembre. l'après-midi.
Parce que là, septembre, octobre, il y en a des salons du livre. Hein. Il y a Marguerite, je crois, le même jour que vous. Donc ce dernier livre, il n'est pas sur la table, puisque j'ai bien compris que si sur les trois livres qui sont sur la table, donc la pièce d'à côté, une question d'interprétation et trois points, il y en avait un dont vous aimeriez nous parler plus longuement, ça serait lequel ?
Je vais parler de la pièce d'à côté, parce que c'est un petit... Bon, c'est un roman où j'ai fait transpirer l'expérience qu'a vécue ma femme à travers dans le milieu professionnel. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit jeu interactif avec le lecteur, une sorte de petit jeu un petit peu qui suis-je, voilà, où le narrateur va déclarer qu'il est le personnage le plus important du livre, mais plutôt que de dévoiler son nom, il va inviter le lecteur à deviner qui il est à travers des questions-réponses. Donc, un petit peu comme le jeu qui suis-je, et à la fin, normalement, le lecteur doit trouver qu'une seule personne, un peu comme dans Koh-Lanta, mais il finit pas sur les poteaux, quoi. Voilà.
C'est un gros livre, c'est rare de trouver sur les salons du livre où vous êtes auto-édité, Sylvain ?
Auto-édité, oui.
C'est un gros travail après, de justement, quand on est auto-édité, d'aller voir, de se faire connaître les salons, parce que je pense que les librairies ne vous veulent pas, voilà, donc vous pouvez dire quelques mots là-dessus ?
Je dirais que le plus simple dans l'auto-édition, c'est d'écrire le livre, voilà, et le plus compliqué arrive après, voilà, mais bon, après... Comme c'est pas mon métier et que j'en fais plus une passion et un loisir, je me mets pas la pression, je veux le vivre comme ça. Mais oui, c'est pas simple, quoi.
Je vous propose de nous retrouver donc en novembre pour la sortie du nouveau, ça sera mieux. C'est comme ça fait un an qu'on doit se voir pour cela. Attendons le prochain maintenant. Hein. Merci, puis je vous souhaite un très bon salon.
Merci.
Au revoir Sylvain Sixou. Et je continue avec Marie Salins. Marie Salins, on s'était rencontrés à Claret. Je lui avais demandé de parler de son livre et elle a fait partie des 4 ou 5 auteurs dont la prise de son était absolument navrante. Donc je n'avais pas pu passer votre interview. Donc bonjour Marie Salins.
Bonjour.
Donc Marie Salins, c'est Café Amer. C'est édité par notre ami Christophe Laondès, donc aux éditions Nombre 7. Et sur la couverture, thriller psychologique. Donc c'est l'histoire d'un brillant avocat parisien qui délaisse ses parents, amis, amour, pour réaliser ses ambitions. Vous nous en dites plus donc sur ce livre ?
Oui, en fait, c'est l'histoire d'une passion, mais en fait, le récit ne porte pas sur la passion. Le récit porte sur la disparition de la femme qu'il aime, donc cet avocat dont vous venez de parler, et il part à sa recherche. Donc tout le livre traite de cette quête, de cette femme qui est mystérieusement disparue. Et pendant qu'il recherche cette femme, il va découvrir à la fois des choses sur son passé à elle qu'il ignorait, mais surtout des choses sur son passé à lui qu'il avait complètement occulté. En fait, c'est l'histoire de ce qui fait le lit de la passion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, deux êtres se rencontrent et de façon inconsciente, il y a quelque chose qui fait écho l'un à l'autre. Et dans mon histoire, dans ce récit, dans Café Amer, c'est les traumatismes de l'enfance qui font écho l'un à l'autre. Voilà.
C'est votre premier livre, Marie ?
Oui, c'est mon premier roman, ouais. Ouais.
Ça vous a donné envie de continuer ?
J'en ai écrit un deuxième, là, que je suis en train de terminer, oui, tout à fait. Ça me donne envie de continuer, oui.
Merci beaucoup de ce témoignage, et puis à très bientôt. Au revoir, belle journée. Il est un peu plus de midi, place Salingros, donc à Figueroles. Et je vous propose de continuer la promenade avec les auteurs présents au Salon du Livre et des Arts de Figueroles avec Valérie Muller. Valérie Muller qui propose des livres pour enfants. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous pouvez nous parler un peu de votre travail sur l'aventure des petits légumes ?
Alors l'aventure des petits légumes est née à partir d'un spectacle petite enfance, comme j'exerce l'activité de conteuse. Et c'est un petit théâtre d'objets, donc j'avais les textes et j'ai rencontré l'illustratrice Christine Janvier, qui illustre depuis 40 années pour les différentes maisons d'édition. Donc c'était le coup de cœur réciproque et on a créé ce livre qu'on propose pour les crèches, les écoles maternelles. On fait des interventions aussi en école.
Et, une maison d'édition ou c'est vous faites ça en auto-édition toutes les deux ?
Alors, vu la difficulté pour rentrer dans une maison d'édition, je l'ai pris en auto-édition avec une impression locale sur Nîmes. C'était important pour nous aussi. Et donc, du circuit court. Et donc, il a tellement bien été apprécié que maintenant, on va sortir à l'automne. Où vont les fruits ? Donc, même principe, des découpages, collages, toujours des poésies comptines, très fantaisistes.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en lire un, peut-être ? Hein ?
Oh, potiron, mon potiron tout rond. Tu es si rond que l'on te prend pour un ballon. Que caches-tu dans ton gros ventre tout dodu? Est-ce un trésor, est-ce un palais caché, caché tout au fond de ton ventre frais? Est-ce une grenouille? Est-ce une souris cachée, cachée tout au fond de ton paradis? Oh petit rond tout rond, tu es si beau que le rat gris a fait de toi un beau bateau qui s'est mis à voguer sur l'eau. Ciao! Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière est le bateau. Merci beaucoup Valérie Muller. Et puis il y a peut-être un site sur lequel on peut vous trouver, voir vos activités, vos rendez-vous.
Vous pouvez me trouver donc valérie.muller.auteur sur Instagram ou alors sur Facebook, Valérie Muller conteuse clown. Merci, à bientôt.
Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte.
Je continue. Et je tombe sur la Pepa Yopas. Bonjour la Pepa.
Bonjour Nathalie.
Alors sur le stand de la Pepa, il y a un livre de poèmes qui est tout récent en plus, hein, la Pepa. Oui, c'est récent, c'est récent. Qui s'appelle D'une déchire l'autre, d'une déchirure à l'autre. Des collages, voilà, elle nous a parlé. Il y a des très jolies cartes postales aussi sur son travail. Derrière, elle est une des seules d'ailleurs à avoir des grilles. Oh non, il y en a quand même un petit peu avec tous ces collages. Le plaisir de retrouver Figrol, qui est un quartier de prédilection. Je vous coupe pendant votre repas, et là, hein, la Pepa, excusez-moi. Deux minutes pour nous parler du plaisir d'être à Figrol, du plaisir retrouvé d'être à Figrol.
Alors, moi, jusqu'ici, je n'y étais jamais allée. Au salon, mais comme je suis allée à deux reprises au salon de Claret, ben, puis j'aime bien Figuerol, puisque il y avait Scrupule, il y avait Tapuscrit, il y a SR Gallery maintenant, donc oui, j'adore. Oui.
Et puis aujourd'hui, donc il y a quand même des choses particulières, c'est que vous n'êtes pas avec la bande du Bicart.
Et non. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait là? Eh ben non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Non, en fait, moi, j'ai déposé, j'ai candidaté sans leur demander s'ils y allaient. Et puis, voilà.
Vous pouvez vous faire des grands signes, hein, comme ça.
Ils ont vendu tous mes livres. Donc, je ne les intéresse plus maintenant.
Merci, la Pepa. À bientôt. Et entre deux auteurs, je vous propose de parler avec... Il va se présenter lui-même. Quelqu'un que j'avais rencontré devant la galerie Marc Devaux pour la sortie du livre de Marie-Agnès, je crois, et qui a les éditions L'Obsidienne. Je vous laisse vous présenter puis nous dire quelques mots sur le plaisir d'être là aussi en visiteur.
Donc, les éditions L'Obsidienne, pour les présenter vite fait, ça fait très longtemps qu'elles existent, puisque je les ai créées en 1978 à Besançon. Mais ça a toujours été quelque chose de petit. Presque du livre d'artiste ou du petit tirage plus ou moins fait main. Et là, il y a une nouveauté, c'est que j'ai quand même décidé d'imprimer en passant par un imprimeur et de mettre en place un catalogue de vente en ligne. Et donc, je suis en train de faire ça avec François Millet, qui avec son logiciel. Là, voilà. Donc, je travaille avec lui, avec son logiciel.
François Millet, qui j'ai rendu un hommage particulier, puisque c'est lui qui m'a fait connaître et Tapuscrit, Scrupule et tout le monde ici. Si je n'avais pas un jour rencontré François Millet, je ne serais pas aujourd'hui derrière ce micro à parler de ce salon. Donc un big up à François, voilà. Ouais. C'est du plaisir de travailler avec lui.
Ah oui, moi j'aime bien travailler avec lui parce qu'il a une compétence. Et puis, il a beaucoup de réactivité. Si j'ai un problème, je l'appelle et c'est réglé. Donc, non, c'est bien. Je pense que quand on a envie d'éditer de mettre un catalogue en ligne à l'heure actuelle, je pense qu'il est, oui, il assure bien là-dessus. Ouais.
Donc, pour en savoir plus sur vous, il y a une adresse internet, il y a un site.
C'est l'obsidienne.org. L'obsidienne en un seul mot. Voilà. Et sinon, sur Montpellier, les gens ils me connaissent plus sous le nom de Sarah Cohen. Et parce que, en fait, j'ai fait un travail de d'entretiens, pas d'interviews, parce que ce sont des entretiens écrits, avec un certain nombre d'artistes de Montpellier. Et là, je suis en train de mettre en place le 13e numéro avec Isabelle Marcella. Voilà.
Plein de belles occasions de vous retrouver, en tout cas, en allant notamment sur votre site. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Et je suis contente de retrouver, avant de retrouver plus longuement Florence Tolozan, de retrouver Flora Taillet. Flora Taillet, je vous ai proposé de la rencontrer à Claret. Et elle nous avait parlé assez longuement de ses livres d'enfants, donc avec des très jolis titres, très poétiques. Bonjour Flora.
Bonjour.
Alors, décidément, nous on se voit toujours au soleil, hein, que ce soit le soleil de juin, le soleil de septembre, c'est une histoire entre nous. Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté votre émission cet été sur Claret, vous pouvez nous reparler de votre petite collection de livres pour enfants, de votre collection. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi elle est petite. C'est une collection.
Et surtout, elle n'est pas finie. Pour l'hiver, je sortirai une collection sur les 4 saisons, avec pour héros le petit lynx, encore une fois. Et pour cet hiver, nous aurons justement le tome de l'hiver.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces livres pour enfants?
Eh bien, je dirais que déjà, ils sont très colorés et aussi dans un ton un peu enfantin, mais aussi joyeux et surtout dans la découverte. Déjà, pour le petit lynx, nous avons la découverte des couleurs. Pour Bernard, nous avons la découverte des animaux marins. Pour le guépier, les animaux d'Afrique et aussi jusqu'à chez nous.
Peut-être dire ce que c'est qu'un guépier.
Oui, c'est vrai. Un guépier est un oiseau très coloré qui migre de l'Afrique du Sud jusqu'à chez nous. Nous pouvons l'apercevoir ici, dans notre région, plus particulièrement aussi à Claret. Je crois qu'ils ont un lieu de nidification. Et puis, pour finir, nous avons une petite souris des champs qui nous fait découvrir tous les petits animaux des champs qu'on ne soupçonne pas, ou aussi les insectes. Et tout ce qui rejoint ou lit ces livres, c'est vraiment le thème de la découverte, mais dans quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut apprendre ou de ce qu'on peut voir. J'avais envie de faire découvrir les choses sous un nouvel angle.
Et donc tout ça, c'est disponible aux éditions Amalthée.
Non. Amalthée a été juste avec...
D'accord. Et les autres, ah oui,
auto-édité.
D'accord. Et on vous trouve sur Amazon?
Non, mais vous pouvez me trouver, par exemple, dans la librairie du côté de Viol-le-Fort ou aussi au Créateur du Pic à Saint-Martin-de-Londres. Et puis
vous écrire si jamais on veut recevoir le livre.
En tout cas, vous pouvez aussi me joindre via mes réseaux sociaux et puis aussi bientôt via mon site. Vous pourrez commander le livre là si vous le souhaitez.
Merci beaucoup, Flora Taillet. Ah ben là, j'arrive avant, décidément, Florence, j'arrive à côté de quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux que je connais bien. Bonjour Dominique Mignana, vous allez bien? C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps, hein? Ah, c'est vrai? Hein, voilà. Moi, je suis du 28 et vous du 1er, voilà. Dominique, c'est un quartier que vous connaissez bien. Les auteurs, les maisons d'édition, tout ça, vous êtes toujours très proches. Ça vous fait quoi de retrouver le Salon des Arts à Claret? Pardon, à Figuerolle. Ah là, oui, bah oui, excuse-moi.
Ah ben, ça me fait plaisir, surtout de voir le soleil, alors qu'il n'était pas vraiment garanti. Et que ça faisait plusieurs années qu'on était un peu contrariés par la pluie. Donc voilà, c'est un moment harmonieux et j'aime bien. Voilà.
Vous n'êtes jamais très loin de ces auteurs. Hein. Je crois que voilà, vous les voyez souvent dans d'autres lieux. Voilà. Mais là, de les avoir tous comme ça réunis autour de la place Salingros, c'est sympa quand même.
C'est très sympa, moi-même j'écris. J'ai failli peut-être être là, mais bon, chaque fois, ça ne se prévente pas. Voilà, c'est comme ça. Faut faire avec la diffusion que l'on peut avoir, mais qui pour moi très restreinte. Moi, c'est Facebook avant tout, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Dominique Mignana. À bientôt. Au revoir. La promenade continue avec quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est ma mascotte, c'est ma chère Florence Tolozan. Florence, c'est un salon un peu inhabituel pour vous, c'est un peu alternatif. Bon, il y a beaucoup de copains que vous connaissez de salon en salon, mais là, il y a une atmosphère différente dans ce quartier de Figueroles qui est si particulier.
Oui, j'aime beaucoup, d'autant plus que je suis originaire de Montpellier. J'ai voulu venir plusieurs fois, mais une fois ça avait été annulé à cause de la pluie, une autre fois à cause du Covid, etc. Donc je suis ravie de pouvoir enfin revenir, c'est pas très loin de chez mes parents, donc je suis ravie d'être là.
Et donc aujourd'hui, toujours la chinoise du tableau et l'écho de nos jours. On s'est rencontrés la dernière fois pour un bel entretien à Saint-Clément-de-Rivière. Vous étiez un peu la vedette, hein, vous étiez en arrivée de salon. C'est toujours au programme pour l'année 2023-2024 d'être présente sur les salons?
Oui, oui, bien sûr. Selon les opportunités. Et puis je varie un petit peu. Je vais un peu plus loin de temps en temps. Ça me permet aussi de rencontrer d'autres lecteurs dans d'autres villes. Et là, dans ces cas-là, j'y vais en famille et on peut visiter un petit peu.
Si on s'est vu dans un salon, hélas, où il n'y a pas eu beaucoup de public, mais qui était très joli, à Anduze. C'était un très joli lieu. Vous êtes une des seules autrices ici sur le salon d'être en maison d'édition. La plupart sont auto-éditées. Il y a un peu chez Hello Édition quand même. Donc vous êtes chez M+, où c'est vraiment une maison à compte d'éditeur. Et vous êtes aussi une des seules à être traduite à l'étranger. Vous pouvez nous parler un peu justement de cette façon de cette approche que vous avez avec les auteurs, enfin avec les lecteurs étrangers?
Oui, mon livre La Chinoise du tableau a été édité aux États-Unis par les éditions Harvard Square en français et en bilingue anglais-français. J'ai eu quelques contacts via les réseaux sociaux de lecteurs et aussi avec la traductrice où on a travaillé main dans la main. Il va être aussi traduit en allemand, il va sortir à l'automne là. Et là, pareil, j'ai eu des contacts avec la traductrice, qui est très intéressant, parce que certaines choses qui me semblent évidentes ne le sont pas dans d'autres langues. Et il a fallu que je précise beaucoup de choses, même bon, des expressions, mais aussi des choses qui me paraissent anodines et qui sont assez fines, finalement, et pas toujours perçues dans d'autres cultures.
L'écho de nos jours, ça fait presque un an maintenant. Ça fera quand? 6 mois.
Oui, il était sorti en novembre.
Vous êtes encore plein du bonheur de sortir celui-là ou vous êtes déjà sur une prochaine idée, Florence?
Je suis dans le...
Un petit teasing.
Je suis dans le bonheur de partager celui qui vient de sortir. J'essaie de préparer un prochain voyage aussi conjointement pour peut-être le Sri Lanka. Je ne sais pas, j'essaie de voir encore. Je suis encore dans cette réflexion-là.
Bah, merci beaucoup, Florence Tolozan. À bientôt.
Merci
beaucoup. Au revoir. La journée à la place Saint-Langros lors du Salon du Livre et des Arts de Figueroles se continue. Je viens de boire un petit coup au stand de la Carmagnole qui a assuré à midi la restauration et l'hydratation parce qu'il fait très beau. Et juste devant le stand de la Carmagnole, je tombe sur un stand qui m'intéresse beaucoup et avec des sujets qui interpellent. Et je suis en présence, mais il va se présenter parce que son livre est loin, je ne vois plus son nom. Bonjour.
Bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Philippe Martin, je suis historien et je travaille sur l'histoire des paysans contestataires, on va dire, de Bernard Lambert des années 60 à José Bové, puis la Confédération paysanne aujourd'hui, voilà. Et puis sur des sujets un peu annexes liés aux campagnes, aux pratiques agricoles.
On en a beaucoup entendu parler lors des luttes du Larzac, évidemment avec José Bové, mais avec son copain qui était là beaucoup avec une barbe. Vous voyez qui c'est ?
Il y avait Jean-Émile Sanchez et un qui a blanchi, qui s'appelle Christian Roquerolles. Voilà. Qui est un des organisateurs cet été de journée sur le plateau du Larzac qui s'appelait Les Résistantes. Journée écologiste.
Il y avait eu un très beau film sur La 5, je crois, qui expliquait ça, ou sur Arte. Très, très beau documentaire sur les luttes du Larzac et où Roquerolles, et ce qui avait donné après aussi des éléments forts de la Confédération paysanne. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Alors, il y a le film de Christian Rouault qui est sorti en cinéma, qui s'appelait « Tous au Larzac ». Ça doit dater d'une dizaine d'années, je dirais. Et où il y avait à la fois Bové, bien sûr, mais pareil, Roquerolles, mais aussi un monsieur plus âgé qui est d'une autre génération, qui était né sur place, c'est ce qu'on appelle un pur porc, qui s'appelle, le nom m'échappe là, mais ça va me revenir dans un moment, et qu'on voit courir au début du film le long de la faille au-dessus de Millau sur le Larzac, et qui raconte comment lui, paysan catholique de droite traditionnelle, finalement percuté par la lutte contre l'extension du camp militaire, il va petit à petit changer de façon de voir et rejoindre la lutte et changer de façon de voir.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les paysans, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs, pour beaucoup, c'est la FNSEA. Et c'est vrai que les livres que vous avez écrits, je vais aller les dire quand même, les titres, parce que on s'est mis à l'ombre hein, pour parler, mais les livres sont encore au soleil. Donc, l'histoire de la nouvelle gauche paysanne, de mai 68 dans les campagnes françaises, et les paysans écologistes. Voici les trois titres de Jean-Philippe Martin. C'est vrai que parler des fois de gauche et de monde paysan, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que ça va pas tout à fait ensemble, mais ça questionne en tout cas.
Oui, alors contrairement à une idée reçue, il y a toujours eu une minorité dans les campagnes de paysans, d'agriculteurs proches de la gauche, mais des gauches différentes souvent. Il y a même une tradition communiste dans les années des années 30 aux années 50 dans les campagnes. Hein. Il y avait un journal qui s'appelait La Terre, par exemple, qui a été diffusé à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires vers 1950. Puis après, il y a eu un renouveau, mais ce que j'appelle la nouvelle gauche paysanne avec d'autres, mais ces gauches ont toujours eu du mal à se rapprocher. Elles sont restées divisées, c'est une tradition.
Et comment vous avez été amené à vous intéresser justement ?
J'ai un goût. J'étais installé dans le sud d'Aveyron, à Sainte-Afrique, depuis longtemps, et je connaissais José Bové de nom bien avant l'affaire du McDo de Millau. Voilà pourquoi je me suis, à partir de là, 99, intéressé à ce courant.
Vous-même, vous êtes agriculteur, paysan ou pas ?
Non, il y avait la mère de mes enfants est d'origine paysanne et son frère a repris la ferme de ses parents. Il était traditionnaliste FNSEA et aujourd'hui à 55 ans, il est en bio, plutôt proche de la Confédération paysanne. Vous voyez, les choses ont changé, mais il faut du temps.
Je crois que le président de la FNSEA et pas le président de l'Actalis en même temps, mais pas loin. Enfin, c'est un truc comme ça. Il y a une parole forte quand même du monde paysan. Je sais que par exemple avec à Sainte-Soline ou à bien sûr à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des paysans. Elle est forte cette parole paysanne ou pas tant que ça quand même
Pour dire les choses nettement, c'est un courant minoritaire. Hein. Voilà, c'est un courant minoritaire. Ils doivent faire 20% aux élections aux chambres d'agriculture, avec des différences suivant les régions. Mais c'est un courant qui existe et qui n'est pas réductible aux néo-ruraux, comme on a trop tendance à le dire. C'est comme on dit en Aveyron, il y a aussi des authentiques purports, c'est-à-dire des fils de paysans, qui se reconnaissent dans ce courant et qui préfèrent avoir des voisins et d'autres agriculteurs à côté plutôt qu'être les seuls dans la commune.
Les livres, vos livres, vous les avez édités vous-même ou vous avez une maison d'édition, Jean-Philippe ?
Alors, le premier est paru chez La Découverte, le deuxième chez L'Harmattan et le troisième, c'est Champvallon, qui est surtout connu pour des livres d'histoire. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces quelques mots. Et puis, franchement, ça m'intéresserait qu'on arrive à se caler un rendez-vous pour en parler plus longuement à la radio. Ça me ferait très plaisir.
Avec plaisir, je vous donne mon mail.
On s'échange ça. Merci beaucoup Jean-Philippe Martin. Après avoir bu une petite verveine fraîche au stand de la Carmagnole, d'avoir discuté avec la gauche paysanne et puis avec la gauche tout court, parce qu'on vient d'échanger avec Nathalie Oziol, la députée du quartier, je m'assois un brin à côté de Karine Nolan. Karine qu'on a bien connue sur nos ondes avec plusieurs interviews, que j'ai croisée la dernière fois à Claret, sans sa fille. Là, il y a sa fille qui dessine formidablement à côté. Bonjour Karine Nolan.
Bonjour Nathalie.
Karine, donc, quelle a été l'activité littéraire hein, depuis début juin ? Grande pause ou grande pause estivale ou un peu d'écriture pendant l'été ?
Beaucoup de promos. Mais quand je parle de promos, c'est préparation des sorties des livres, traduction aussi, ce genre de choses.
C'est beaucoup de travail ça ?
Oui, on dirait pas, mais en fait, écrire c'est une chose, mais après, tout ce qui est derrière, présenter les livres aux maisons d'édition, la traduction aussi est une chose, puis les faire réviser, parce que les fautes d'orthographe c'est pas bien, on en fait, à force de voir les livres, on voit plus rien à la fin, et oui, puis écrire c'est bien, mais il faut se mettre en avant, il faut être vu, il faut sortir du lot, parce qu'on est nombreux, et voilà.
Je vois les salons, c'est vraiment facile de regrouper une centaine de personnes, quoi. C'est vraiment pas... Là, il y a Castries qui arrive, il y en a d'autres des importants. Vous avez déjà des salons jusqu'à Noël de prévu ?
Oui, j'en ai jusqu'à Noël. J'en ai un autre le mois prochain. Donc, je commence tout doucement à Aigremont. Et puis, au mois de novembre, ça va se précipiter. Oui, je ne m'en rappelle plus, donc j'en ai beaucoup. Jusqu'à...
Je crois qu'il va y avoir Quissac en octobre. Aigremont, on va se retrouver. J'ai vu, on est déjà deux ou trois sur le salon à être à Aigremont. Et c'est moi qui animerai les tables ouvertes avec Frédéric. C'est Frédéric Saumon, qui n'est pas là aujourd'hui, qui était là à Claret, qui est le porteur de projet de ce festival du livre, de ce salon du livre à Aigremont. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas écouté les autres émissions, vous nous dites un petit peu quel style littéraire vous abordez, Karine ?
Alors, je suis un peu touche-à-tout. Mon domaine de prédilection, c'est le fantastique anticipation de l'ancienne anticipation, pas du jeune anticipation, ce sera plus du 1944, du George Orwell ou ce genre de choses. Ouais, 84, merci, je me suis trompée d'année. Sinon, je fais aussi pour les petits. Donc il y a un livre qui va sortir en septembre là qui s'appelle Rouge comme l'automne où Yannick qui a illustré et ce mois-ci donc j'ai deux parutions, j'en ai une autre qui s'appelle Isis la féline qui est pour la collection Bel Âge spécialisée pour les personnes atteintes de déficience neurologique AVC, Alzheimer, etc. Voilà.
Bah écoutez, dire quelques titres. Alors je vois La Zone, Isis la féline, Tu vas glisser, Spot et Rouge comme l'automne, voilà. Et puis, votre charmante fille qui est à côté de vous et qui fait des croquis. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, comment tu t'appelles, Anadi, maman ?
Je suis pas loin. Du coup, mon nom d'artiste, c'est Nille. Donc, comme une chenille, mais juste la fin. Et donc, du coup, oui, j'ai illustré donc, le livre Rouge comme l'automne pour Karine Nolan, enfin, ma mère. Voilà.
Pardon. Famille d'artistes, Karine, hein ? Parce que papa, il aime la musique ? C'est le papa ? C'est le monsieur que j'ai au téléphone, c'est le papa. Voilà. Voilà, papa, la belle musique, maman qui écrit, fille qui dessine. Ah, d'accord. C'est une belle école. Et c'est pas facile d'y rentrer. Bah, c'est bien comme ça. Tu vois, j'avais pas de contact à l'ESMA. Quand vous faites des animations, je passerai par toi. Voilà. Merci beaucoup, Karine. À bientôt. Merci, merci. À côté de la table de Karine Nolan, une très jolie table avec des livres d'art, hein, des livres d'artistes, des cartes postales. Et je suis en compagnie de...
Claude Corbier.
Claude, vous nous parlez un petit peu de votre travail ?
Oui, je suis photographe plasticien depuis très longtemps. Et comme beaucoup de gens, j'ai vécu une période difficile avec le Covid qui a transformé radicalement ma façon de travailler. Donc je présente des choses qui sont un petit peu anciennes et d'autres qui sont très, très actuelles.
S'il y avait un livre dont vous voudriez parler plus particulièrement, ça serait lequel, Claude ?
Swinging Montpellier, qui raconte l'histoire du rock à Montpellier dans les années 80, que j'ai vécu avec une double casquette d'ancien musicien. Je venais d'arrêter ma carrière très fraîchement et je commençais ma carrière de photojournaliste. Et donc j'ai vécu cette histoire-là en tant que journaliste et en tant qu'ancien musicien avec des tas d'amis. Ça a été une expérience extraordinaire. À l'époque, Montpellier avait des groupes de rock qui étaient connus nationalement. La ville était connue nationalement. Et ce petit ouvrage raconte toute cette histoire, raconte notamment comment Georges Frêche a été obligé de céder à la population rock de la ville et de créer la salle Victoire.
Et oui, alors moi je suis arrivé en 85, Claude, à Montpellier, et j'avais 25 ans. Et c'est vrai que j'étais déjà... Je suis passée à côté de tout ce mouvement-là. Là, je regarde le nom Cargo de Nuit, c'était un groupe ?
Oui, tout à fait. C'était un des deux groupes phares de la ville avec OTH. Il y en avait d'autres, mais c'était les deux grands rivaux à l'époque. OTH était assez punk, assez brut, disons. Cargo était un peu plus fin dans le rock.
Et tout ça, on trouve encore, quand on va sur YouTube, leurs morceaux, c'est toujours diffusé. Les groupes n'existent plus, je pense, si.
Les groupes n'existent plus, mais on trouve tout ça, oui, sur YouTube. Il y a Pascal Comolade aussi, qui naissait à l'époque. Et puis toute la scène, il y avait des petits groupes partout, ça jouait dans les caves, les garages, c'était assez dément.
On n'est pas loin du punk encore, hein ?
On est juste à la sortie du punk, donc il y a encore cette teinte punk, il y a aussi la Cold Wave et la New Wave qui démarrent, il y a tout ce carrefour-là qui était assez fantastique. Le hasard de la vie a fait que j'ai fait tourner deux groupes de Montpellier en Espagne, c'était les deux premiers groupes français qui tournaient en Espagne.
C'est une histoire passionnante en tout cas. Bah, écoutez, je vous invite, si un jour vous avez envie d'en parler au micro de Radio FM+, ça serait super. Ça serait vraiment super, je vous invite.
Merci, je viendrai.
Merci Claude Corbier, merci bien.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.